I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger.
Rendez-nous les chips.
Salut à toutes et à tous, nous sommes au début de l'été et il fait chaud. De Villiers, gare Charcel, à Paris, porte de la Chapelle, Lyon et Marseille. Détendez-vous, vous écoutez le chip. Je suis Kevin Donna et aujourd'hui, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, je suis accompagné de Mélanie Wonga.
Bonjour Kevin.
Et de François Oulac.
Il fait chaud.
Il fait chaud.
Et nous avons une invitée de marque, l'humoriste Fadili Camara.
Salut.
Fadili,
salut.
Bienvenue au chip.
Merci. Ouais.
Si je dis humoriste, ça te va?
Oui, ça me va.
Artiste, actrice, tout ça.
Aujourd'hui,
tu es là pour nous parler de ta vie, de ton œuvre, de ton art, mais ça, on va y arriver un peu plus tard. Mm-hmm. Pour l'instant, on commence par François. François, donc, tu as été convié comment on peut dire ça, une sorte de rencontre universitaire pour faire un photo voice.
Est-ce que ça y est, t'as percé, François.
Non, j'ai pas percé. J'ai encore une fois sauté sur le wagon de Kevin Donna. Kevin m'a gentiment invité à une sorte de conférence universitaire qui s'appelle Race in the Marketplace, qui avait lieu à Paris Dauphine en début de semaine, et où en fait des chercheurs afro-américains venaient à Paris, visitaient Paris, prenaient des photos pour observer et échanger sur comment la classe et la race façonne l'espace urbain. Donc en gros, on est allé dans le 19e, on a vu des trucs de street art, on a fait gentrification, et c'était très très cool. Non mais plus sérieusement, c'était vraiment très intéressant, et ça m'a permis aussi de prendre un petit peu un aperçu de ce que tu fais toi, Kevin, quand tu fais tes visites du Paris Noir. J'ai déjà été plusieurs fois à la visite, mais c'est vrai que c'était intéressant d'échanger avec des chercheurs afro-américains en anglais, de voir leur point de vue sur comment ils voient notre culture, notre pays, etc. Et puis faire white people à longueur de journée. Non mais c'était très cool, j'ai beaucoup aimé l'expérience.
J'ai ramené François parce qu'il voulait un enfant du 19e un peu qui connaissait ses quartiers nord-est de Paris, donc
il voulait un hipster.
Quelque chose d'autre à ajouter?
Non, c'était très cool.
Non, j'adore la chemise de François, je suis fan. Chemise tropicale.
J'ai une chemise à fleurs et à végétation aujourd'hui.
J'annonce le trash ou iconique. Donc on va tout de suite commencer par notre rubrique phare, le trash ou iconique, et c'est moi qui commence.
Est-ce que tu expliques à Fadili en quoi ça consiste?
Est-ce que tu connais le trash ou iconique? On parle d'une actualité, et en fait, il y a deux options. Soit c'est trash, soit c'est iconique.
D'accord.
On n'a pas la place pour la nuance, la subtilité, tout ça. C'est trash ou c'est iconique?
Trash, ça veut dire c'est nul?
Ça veut dire...
C'est
pas top. Donc moi, mon iconique, cette quinzaine, c'est l'intervention d'un écrivain américain dont je vous ai déjà parlé l'année dernière. Il s'appelle Ta-Nehisi Coates.
Oui.
Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. et en fait, pourquoi je vous en parle? En fait, il y a eu une actualité qui est un peu passée inaperçue en France. Vous comprendrez pourquoi. Il est question de réparation pour les descendants d'esclaves, donc on n'est pas surpris.
Non, mais on ne connaît pas l'esclavage en France.
Voilà, on n'est pas touché par ces problèmes-là. En deux mots, ça s'appelle HR 40. C'est une proposition de loi présentée par un groupe d'élus. Leur objectif, c'est de créer une commission parlementaire chargée d'étudier les discriminations subies par les descendants d'esclaves, puis faire des recommandations sur d'éventuelles solutions appropriées. Donc, en fait, ce truc-là, HR 40, ce n'est pas du tout nouveau. Ça a été créé en 1989, mais ça n'avait jamais vraiment été pris aussi au sérieux, ça n'avait jamais été soumis au vote. Pourquoi est-ce que c'est différent aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça revient sur le devant de l'actualité? Premièrement, parce qu'on est en 2019, qu'en 2019, on commémore les 400 ans en fait, de l'arrivée des premiers esclaves captifs africains sur le sol américain. Et donc du coup, il y a de plus en plus de discussions et c'est un débat qui commence à gagner en visibilité. Du côté des Républicains, donc plutôt la droite, on n'est pas complètement en faveur de ce projet-là. Donc ils ont envoyé Mitch McConnell, qui est un peu, si je dois vous expliquer, c'est un peu un méchant de film américain, un mec super cynique, sénateur du Kentucky, pro-gun.
Avec un costume trois pièces.
Exactement. Et puis il parle un peu comme ça, il a une voix un peu dégueulasse. Bref, Mitch dit qu'effectivement l'esclavage c'est pas bien, que c'est le péché originel de l'histoire de l'Amérique, mais que c'est fini, que personne n'est responsable, puisque les gens qui sont là aujourd'hui, personne n'était en vie il y a 150 ans, donc c'est pas possible. Donc il faut pas en parler. Et c'est là qu'entre Tonton Ta-Nehisi Coates, pour remettre des pendules à l'heure, On va vous mettre des liens dans l'épisode, etc., etc. Mais en fait, pour résumer, il commence en disant que oui, les États signent des traités qui les engagent pour des siècles, que ce n'est pas juste une question d'une vie humaine, d'une durée de vie, que les États versent, par exemple, des pensions aux familles de morts pour la patrie sur des générations et des générations. Donc déjà, ça, c'est faux, le fait de dire « Ah ben non, mais plus personne n'est vivant.
Ouais.
Ils sont morts, bon, on ne sait pas quoi faire. » La deuxième chose... c'est que pour lui, la question des réparations, c'est pas seulement pour l'esclavage, mais c'est pour le siècle qui a suivi de politiques de discrimination, ce qu'on appelle Jim Crow, et qui s'est...
égaux mais séparés.
Égaux mais séparés. Enfin, séparés mais égaux d'ailleurs,
séparé,
je crois. Et ça va durer comme ça jusqu'aux années 1960, avec des choses hyper insidieuses, le redlining, enfin bref.
He was alive for the redlining of Chicago and the looting of black homeowners of some $4 billion. Victims of that plunder are very much alive today. I am sure they'd love a word with the majority leader. What they know, what this committee must know, is that while emancipation deadbolted the door against the bandits of America, Jim Crow wedged the windows wide open. It was 150 years ago, and it was right now.
Alors là, il raconte, enfin, il rappelle que le sénateur républicain Mitch McConnell, qui dit, voilà, personne n'était en vie, il rappelle que Mitch McConnell est né en 1942 et donc il était complètement en vie à l'époque de toutes ces politiques discriminatoires. Et aussi, il rajoute à la fin des statistiques sur les écarts de richesse entre foyers blancs et foyers noirs. Il parle évidemment du problème, de l'énorme problème carcéral aux États-Unis, plus de 2 millions de personnes en prison, dont la moitié sont des noirs américains. Il parle de problèmes d'accès à la santé, aux soins pour les femmes noires, dont le taux de mortalité maternelle est 4 fois plus élevé que celui des femmes blanches. Et donc, toutes ces choses-là découlent de siècles de discrimination.
Est-ce qu'il parle aussi du fait que les propriétaires d'esclaves ont été indemnisés à la fin de l'esclavage? Ah bah oui.
Ils n'en parlent pas, mais ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, le 40, dans HR 40, c'est lié aux 40 acres et une mule.
40 acres and a mule.
40 acres and a mule, c'est le nom de la société de prod de Spike Lee, et c'était une promesse du président Lincoln qui abolit l'esclavage et qui dit à chaque esclave, vous aurez 40 acres et une mule. Lincoln a été assassiné, et puis après, on a oublié cette promesse, et donc il y a les militants, ils en parlent encore. Moi, je trouve que c'est bien de remettre les pendules à l'heure, je trouve que c'est bien que ce débat prenne de l'ampleur, même si, comme on dit en anglais, je retiens pas mon souffle. CNN a fait un petit sondage dans la population américaine et 89% des blancs sont contre. Donc, faut pas s'attendre à recevoir des chèques ou même des politiques publiques hyper ambitieuses. Mais en tout cas, il y a aussi cette idée que des ambitions qui paraissaient un peu folles à un moment donné, ben 20, 30, 40 ans plus tard, ça finit par percer.
Et puis là, ce qui est intéressant, c'est que là, la présidentielle, enfin la
Exactement.
Campagne a commencé,
les primaires, ouais.
et les démocrates, enfin une majorité des candidats démocrates sont pour une forme
pour,
de réparation.
Ouais,
donc,
pour étudier au moins la question.
Du coup, peut-être que ça va changer dans les années à venir.
Peut-être, ouais.
Pendant ce temps-là, en France,
mais c'est pas pareil.
Ah bon,
pas comprendre.
Non,
ça s'est passé loin.
Ils étaient bien nourris.
Voilà.
Allez. Alors cette semaine, pour le Trashico des réseaux, on a posé une question qui divise, hein, parce qu'on aime bien. Donc, on a demandé sur Twitter, Matthew Knowles, le père de Beyoncé, a récemment déclaré qu'elle n'aurait pas connu le succès qu'elle a eu si elle avait été plus noire. Est-ce qu'il a menti? Ou est-ce qu'il a dit la vérité? Donc on a posé la question et vous avez été à peu près 300 à répondre et vous nous avez dit à 49% le thé est bouillant, égale Matthew Knowles dit la vérité. 12% non mais c'est le talent de la meuf, elle était talentueuse, c'est pour ça qu'elle a réussi. Et à 39% justice for Kelly Rowland. Donc, c'est assez intéressant comme question, parce que j'ai été assez étonnée de voir que ça avait été beaucoup repris dans la presse française, parce que le colorisme, c'est quand même quelque chose qui n'est pas nécessairement beaucoup traité dans les médias grand public en France. Donc, pour rappel, ce qu'a dit Matthew Knowles, il a donné donc une interview à la radio il y a quelques jours, donc Matthew Knowles, le père de Beyoncé, ancien manager des Destiny's Child, et dans cette interview, il explique que Beyoncé a du talent, mais qu'elle a été aidée par le ton de sa peau et par le colorisme de la société américaine qui met en avant les femmes noires claires par rapport aux femmes noires foncées. Donc, merci la suprématie blanche, là encore. Donc, dans l'interview, il dit « Dans l'industrie musicale, il y a toujours eu de la ségrégation. Les programmes, surtout dans la pop radio, ont une image de ce à quoi la beauté doit ressembler. Si vous regardez en arrière pour Whitney Houston, si vous regardez ses photos et comment ils l'ont éclaircie pour la rendre plus pâle, parce qu'il y a une perception et un colorisme, plus tu es pâle, plus tu es intelligente et plus tu as un avantage économique. Et il y a une perception autour du monde de la couleur et même chez les Noirs eux-mêmes. » Donc, c'est marrant parce que moi, j'ai mis Justice for Kelly Rowland dans le sondage, mais dans l'interview même, il cite Kelly Rowland en disant, je l'utilise comme exemple parce qu'elle est un très bon exemple. Elle, voilà, elle, pour lui, il semble qu'elle avait autant de talent que Beyoncé, quoi. Ouais. Et, mais il dit que c'est bien parce qu'à côté, elle a quand même fait une belle carrière. À l'extérieur des États-Unis, elle a vendu 4 millions d'albums. Donc, voilà. On a eu quelques internautes qui ont réagi dans nos commentaires. On a @blackabarbe, grand ami du Chip.
Samora.
Qui s'est insurgé en disant « Non mais attendez, au départ, en lisant juste le tweet, je me suis dit « Ce mec est complètement débile de dire ça » parce que je voyais qu'il diminuait le talent de Beyoncé. Mais quand j'ai lu l'article, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et puis après, il dit « Cependant, dans les années 90-2000, on a quand même eu beaucoup de chanteuses noires dark skin successful, enfin qui ont eu du succès. Brandy et Monica, Missy Elliott, Eve. Je pense que malgré le racisme et le colorisme, Beyoncé aurait eu du succès. L'avantage qu'elle a eu dans sa carrière, c'est le mix charisme, talent, papa. » on a Sweet Brown Sugar qui nous dit « Hélas, le premier album de Kelly était plutôt sympa et aurait mérité un peu plus d'exposition, mais effectivement, entre autres, il fallait plus dans cette industrie. » Et on a Michel Aubamasson qui nous dit « Sorry, mais il a raison. » Donc vous en pensez quoi ?
Pas dit, t'en penses quoi ? Toi qui kiffes Beyoncé en plus.
Bah ouais, grave. Je suis un peu mitigée parce qu'il y a certaines choses que tu peux pas nier. C'est sûr qu'il y a certaines femmes qui réussissent, clairement, tu sais que c'est parce qu'elles ont ce truc en plus, justement. Mais dans le cas de Beyoncé, en fait, là, c'était en montagne russe, j'étais en mode, oh, il dit n'importe quoi. Ah, mais c'est vrai, en fait. Oh, mais non, mais en fait, oui. Parce que c'est vrai que Kelly Rowland était vraiment très, 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 très douée. Mais moi, je pense que là où elle s'est fait la différence, c'est que Beyoncé, elle est. C'est vraiment une acharnée du travail. Après, je suis en partie d'accord aussi avec ce qu'il dit. Je pense que ça joue quand même, mais je pense que pour le coup, Beyoncé, elle a vraiment bossé parce qu'aujourd'hui, même il y a des femmes foncées. Il y a Nicki Minaj, par exemple. Nicki Minaj, elle est pas super claire.
Elle est considérée comme claire aux États-Unis.
Ah bon?
Ouais.
Ah, quand même. Ouais, d'accord, d'accord, bon, bah là, j'avoue, je sais pas quoi dire, mais pour moi, je suis mitigée. Je dirais que je suis mitigée parce que il y a des cas où je peux te dire oui. Clairement, il y a des chanteuses ou même des chanteurs qui sont connus, qui ont un peu plus de notoriété que d'autres, alors qu'ils sont peut-être moins talentueux parce que je pense qu'ils ont ce physique-là, cette particularité. Mais dans le cas de Beyoncé, alors je ne sais pas si je suis objective ou pas, mais...
c'est dur d'être objective.
Moi, je pense que, je pense qu'il y avait peut-être ça. Mais à côté de ça, ouais, je pense qu'elle a beaucoup, 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 beaucoup bossé. Comparé à Kelly Rowland, tu regardes déjà le nombre d'albums. Le ratio année-album, ça a rien à voir, elle l'écrasait.
Les tournées, les chorégraphies.
Les tournées, les chorégraphies, la manière dont elle a innové, je veux dire, à ce niveau-là...
ça crève les yeux.
Oui, Beyoncé, tu peux lui reprocher plein de choses. C'est vrai qu'elle a eu une époque aussi où elle était très... cheveux lisses, teint clair. Je me souviens que
cheveux
moi, tu la voyais dans des après c'était peut-être pas d'elle forcément,
non,
mais
les pubs.
Sur des publicités, tu te disais mais c'est pas possible, elle est pas aussi claire, et tu la vois dans d'autres clips, elle est beaucoup plus foncée. Donc non, mais elle a bossé quoi, des albums limite, j'exagère quand je dis chaque année, mais il y a vraiment beaucoup de travail, je trouve. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
Moi, là où je suis pas d'accord avec ce que disait Samora dans les commentaires, c'est quand il dit qu'il y a des femmes dark skin qui ont aussi réussi, genre, il parlait de Eve notamment,
Eve,
Missy Elliott.
Ouais.
Alors, je pense que quand t'es en tout cas au stage, j'ai l'impression dans la musique noire américaine, c'est plus facile d'être une femme noire et foncée de peau lorsque t'es rappeuse et non pas chanteuse de R&B, parce que déjà, bon, tu vas être sexualisée, mais ça va être un autre type de
côté
cliché.
Animalisation.
Ouais, tu vois, ça va être un autre type de stéréotype sexuel qui fait que c'est plus ok, on va dire, d'être dark skin. Et surtout, tu renvoies aussi à une image plus agressive, plus ghetto, qui fait que je pense que ça dérange personne que Missy Elliott, qui en plus a toujours eu un côté garçon manqué, etc. Ça a jamais dérangé personne que Missy Elliott soit foncée de peau et parce qu'elle est rappeuse en fait, et qu'on renvoie le rap à cette image ghetto, agressif.
Plus ratchet.
Dark, voilà, voilà. Ratchet et donc Dark Skin. Mais c'est juste la nuance que j'ai apportée. Sinon, je suis relativement d'accord avec tout ça. Quoi. Ouais.
Moi, il y a deux petits bémols. Il y a un, c'était ce que disait Fadili sur les images qu'on a de Beyoncé à l'étranger il y a quelques années, très claires, avec les cheveux hyper lisses. Quand le père de Beyoncé, ancien manager, dit aux États-Unis, on n'est pas prêt à accepter des femmes foncées de peau alors qu'à l'étranger, ça a accepté.
Il dit que Kylie Rowland a vendu 4 millions d'albums en Australie et donc ça prouve quelque chose. En dehors des States, Kylie Rowland a du succès, mais je pense que l'Australie n'est pas raciste.
Moi, je pense qu'en Asie, en Europe, c'est plus facile d'être clair de peau, voire limite blanche, pour vendre du maquillage et des choses comme ça. Et là, pour le coup, on a des chiffres et des études à l'appui. Mm. Puis la deuxième chose, c'est que moi, je me méfie toujours un peu de cette guerre civile foncée de peau, clair de peau, parce que vous savez qui est-ce qui est plus privilégié et les artistes qui n'ont pas de talent et qui percent encore plus que les artistes noirs, clair de peau.
Non.
Les blancs, voilà. Donc, du coup, oui, je veux bien entendre que peut-être que le fait qu'elle ait des yeux clairs, etc., mais... Bref, parlons de Taylor Swift si vous voulez.
Après, moi je suis d'accord, juste pour conclure, pour moi Beyoncé c'est la performance d'une génération, donc c'est vrai que
il faut vachement objectif en plus.
Bah, non mais il faut en fait enlever les lunettes de l'amour pour essayer de voir ce qui s'est passé, mais c'est vrai que dans le côté plan marketing, le fait qu'elle soit claire, je pense que ça l'a aidé, notamment pour les partenariats avec des marques comme tu disais, ouais. Et même le statut de sex symbole quoi, le côté qui s'exporte dans le monde entier, et ça, c'est la petite note journalistique, mais combien de magazines féminins ont fait d'elle leur première et parfois unique femme noire en couverture ? Attention, on est super progressiste. Donc, je ne vais pas hâter les magazines en question, mais on vous voit. Donc, voilà, le colorisme existe toujours.
Tu cherches du boulot en ce moment ? Tu veux pas
j'ai envie de passer quelques piches cet été, donc tu vois, voilà. Mais ouais, stay woke.
Fadili, est-ce que tu es prête ?
Oui, je suis prête.
C'est le grand oral.
C'est le grand oral. Fadili, tu es dans la deuxième moitié de ta vingtaine.
Ouais.
Tu es dans le game du stand-up depuis 6 ans, à peu près, 6-7 ans.
À peu près, ouais.
On t'a vu partout. Instagram, YouTube, le JCC, Combini.
La ligne 4.
du métro. Le métro, les murs du métro. Le Soul Sisters, la sorte de spin-off de Barber Show sur YouTube. Mais ta grande actu, c'est la fin de ta tournée. Donc samedi, tu joues la dernière de Plus drôle que la plus drôle de tes copines à la Cigale. On en parlera un petit peu plus tard. Mais ce que je voudrais faire d'abord, c'est parler des débuts. Moi, j'ai découvert Fadili Camara par le Jamel Comedy Club. Et si je me trompe pas, ton premier, ou en tout cas un de tes premiers passages, tu t'attaques à un sujet polémique.
Ouais.
Un sujet polémique. Tu parles des cheveux des femmes noires et des hommes qui veulent s'en mêler.
T'es au courant que la moquette est sur le sol ? Bah du coup, j'ai fait quoi ? J'ai commencé à faire des tissages, des extensions, pareil. Hé hey, Fadili, t'es sérieuse là ? Tes cheveux ont poussé depuis hier. Et le pire, c'est que vous avez toujours des pseudo-leaders africains qui veulent vous convaincre que le cheveu crépus, il est génial, que c'est un engagement politique. Ce que je ne comprends pas. Et cela va m'amener à une rhétorique qui elle-même va nous emmener à un débat.
C'est vraiment les premiers.
Tu grinces des dents quand tu t'entends à la sieste comme ça.
C'est horrible.
Ah, moi j'aime bien, je trouve ça trop.
Il a ressorti les archives, Kevin.
Ouais.
On est chez Arthur, on a retrouvé les images.
Tu avais 12 ans et demi. Allez, Dieu.
Eh ben figure-toi que je trouve ce passage fin et à la fois drôle et intelligent. Pourquoi parce que. On dirait que c'est du vécu. Et de deux, est-ce que tu voulais, d'une certaine façon, t'adresser, ou régler, pas régler des comptes, mais en tout cas répondre aux panafricains, aux hommes noirs qui ont une idée très, très précise, très restreinte de la façon dont doivent se comporter, ou se vêtir, ou se coiffer les femmes noires. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est autre chose ?
Je dirais que c'était plus en prévention.
Okay.
Par exemple, pour le sketch du pseudo leader, ça c'était tout vraiment tout autre chose. Mais par exemple pour les cheveux, l'accent aussi que j'aborde, c'est plus un comment dire. En fait, si tu veux, quand j'ai commencé à faire du stand-up, j'avais pas forcément de but. Je racontais des trucs, je parlais de mon père, de la petite maison dans la prairie. Quand on m'a dit que j'allais faire le JCC, je me suis dit ok. Je sais pas quelle exposition il va y avoir, mais je sais qu'il va y en avoir une petite quand même. Et je me suis dit directement, qu'est-ce que les gens... À quoi les gens vont s'attendre ? Je me suis dit, c'est sûr, les gens vont se dire, bon, bah, vas-y, c'est une Renoir. Ouais, je suis dans les clichés. Bon, ouais, qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Oui. Parce qu'à l'époque, on parlait souvent, dès qu'on me disait, ah, tu fais du stand-up, ok. Et on parlait direct de Claudia Tagbo. Ouais. Donc, je me disais, ok, on va encore me dire, oui, bon, bah, t'es Claudia, qu'est-ce que tu vas nous faire, etc., etc. Il y a souvent, il y a des gens qui me disaient, ouais, Fadili, sur scène, mais de quoi tu parles? Toi, tu fais pas l'accent, tu fais pas les machins. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, ça va être simple. Là, le premier sketch que je vais faire, c'est toutes ces choses-là, en fait, je vais les prendre à contre-pied. C'est quand on me voit, on s'attend à ce que je fasse un accent. Donc, du coup, les gens, ils viennent me parler comme ça, alors que je parle... Je dis pas qu'avoir un accent, c'est pas normal, mais c'est que j'ai pas d'accent de base.
Oui,
j'ai grandi ici.
T'as un accent parisien.
C'est bizarre quand même de parler à quelqu'un avec un accent. Enfin, je trouve ça bizarre. Et voilà, je pense que c'était plus en prévention. C'était plus pour dire, regardez, vous attendez à ce que je fasse quelque chose. Mais regardez à quel point, en fait, ça me dérange.
OK.
Voilà, c'était plus ça.
Et sur le cheveu en soi, c'était un sujet qui, à l'époque, je sais que tu étais beaucoup plus jeune à l'époque, et du coup, est-ce que c'est des sujets qui te travaillaient, sur toi, sur qui tu étais, sur ta représentation?
Ouais, c'est des sujets qui me travaillaient, puisque moi, pendant, à cette époque-là, je me coiffais tout le monde. Moi, je commençais à laisser mes cheveux. Ouais. En fait, avant ça, j'assumais pas du tout mon cheveu. Je l'assumais quand j'étais chez moi, mais je veux dire, en public, j'en avais pas honte, mais je me disais, bon, on va me juger. J'avais déjà fait quelques expériences avant de laisser mon petit afro, ouais. Et c'était tellement pointé du doigt que je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être un truc qui est pas normal, puisque on me parle pas de ma tenue, mais on me parle que de mes cheveux. Donc, il y a peut-être un truc qui est pas normal, donc je l'assumais pas. Voilà, je pense que, bah, comme beaucoup à qui ça arrivait, je me lissais les cheveux, il fallait vraiment, c'était impossible pour moi de sortir si j'avais ne serait-ce qu'une petite touffe un peu crépue. Et après, voilà, il y a eu l'accès. Et puis voilà, j'étais obligée d'en parler sur scène. Voilà, c'est comme une thérapie, on va dire.
Wow, c'est beau.
C'est comme une thérapie.
T'es originaire de quelle ville?
Neuilly-sur-Marne.
D'accord, donc...
Moi, j'aurais dû dire Neuilly.
Ah oui,
de Neuilly.
T'aurais doublé ton salaire annuel. Et du coup, parce que tu dis qu'il suffisait que tu sortes avec tes cheveux naturels pour que ce soit pointé du doigt, etc. Tu parles de qui, en fait? T'as grandi autour de quel genre de personnes? Et là, tu parles de qui? Tu parles de personnes noires, même de la communauté qui faisait ça? Ou de personnes
en fait,
blanches,
ça pouvait être
chez toi, ou comment?
Ouais, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé, pardon.
Non, vas-y.
Bah, en fait, franchement, c'était des deux côtés. Hein.
D'accord.
Ça pouvait être du côté de ma communauté, comme de d'autres communautés. Hein. C'était vraiment des deux côtés.
C'est à la fois le truc un peu intériorisé qu'on a.
Voilà, intériorisé,
et puis des autres, quoi.
Voilà, c'est ça. Moi, je sais que, par exemple, dans ma communauté, moi, je ne mets jamais, parce que tout à l'heure, tu pointais ça, moi, c'est vrai que je ne mets pas, Dieu merci, et puis même, je n'ai même pas besoin de spécifier ça, mais je veux dire, tu vois, dans d'autres communautés, tout le monde n'est pas pareil. Il y en a qui adorent. Par exemple, moi, mon mari, il est tunisien et il ne supporte pas de me voir. Là, j'ai des tresses. Ou des fois, quand je me lisse, mais il trouve ça horrible. Il me dit non, moi, je veux ton cheveu crépus parce qu'il aime ça. Pareil, dans ma communauté, il y a quand même, par exemple, parce que je sais qu'il y a toujours cette espèce de petite, entre guillemets, bataille entre les hommes noirs ne nous acceptent pas, les femmes noires. Moi, il y a beaucoup d'hommes noirs qui me disent non, mais Fadili, laisse ton cheveu crépus. Mais à côté de ça, j'ai déjà entendu des trucs, mais vraiment, mais que je pourrais même pas répéter tellement c'est
une majorité. Ça pour toi?
C'est pas une majorité,
mais c'est une partie non négligeable.
Mais c'est une partie non négligeable.
Ouais, on les entend beaucoup.
C'est une partie non négligeable, et surtout, c'est des personnes avec qui, à un moment donné, j'ai été proche amicalement, mais qui me disaient des trucs. Je me disais, mais c'est juste pas possible d'entendre ça de nos hommes, de nos gars. C'est juste pas possible. Ah, je peux pas sortir avec une femme noire parce que les cheveux, c'est comme ça, parce que c'est trop sauvage. Enfin, c'est des trucs que tu peux pas.
Next.
Que tu vois, c'est next. C'est next. D'ailleurs, je leur concocte des petits sketchs aux petits oignons. Aux petits oignons, je te dis. Non, donc voilà, ça venait vraiment. Je pointe pas vraiment une communauté.
Tu vas pas donner
précise.
Des noms, mais.
Voilà, je vais pas donner des noms, mais vous-même, vous savez qu'on sait. T'inquiète pas, tu vas l'entendre, t'inquiète pas. Mais ouais, ça vient, franchement, ça vient des deux côtés, mais c'est vrai que j'ai moins de tolérance quand ça vient de ma communauté.
Je comprends, ouais. Du coup, parfois, tu te retrouves à prendre des positions qui sont pas forcément populaire dans la communauté, c'est ce que je voulais dire. Je pense en particulier à une vidéo que tu as sortie il y a quelques mois sur ta chaîne YouTube, Fadili Camara, abonnez-vous. Tu parles,
like and subscribe.
Tu parles de la gifle et de la fessée.
Ouais.
De l'interdiction de la gifle et de la fessée. Et en fait, tu dis que c'est une bonne chose. Tu dis, on aurait aimé avoir ça à notre époque. Mm. Et c'est pas si courant d'entendre ça. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet qui a déjà été traité par d'autres humoristes dans le stand-up, Jamel et plein d'autres personnes en parlent. Mais souvent, ils en parlent avec un peu de douleur, mais en même temps avec un peu de nostalgie, parce que c'est leur jeunesse. Toi, tu dis juste que c'est bien que ça s'arrête. C'est pas une position très courante dans la communauté. Donc ma question, c'est la suivante. Est-ce que tu as le sentiment que la discipline est plus stricte, voire plus martiale dans les familles immigrantes en général
aujourd'hui? Les questions de société que tu lui balances, là, c'est chaud.
Est-ce que tu penses qu'il y a une sorte de... on rigole pas pareil chez nous, tu vois.
Mais c'est un sujet ultra transversal, je trouve, à toute la scène humoristique française. Bien sûr, Youssoufa Diaby. Un moment où on va parler des darons.
Ouais, des parents qui sortent la ceinture, quoi.
Exactement.
Alors que, moi, personnellement, déjà, oui, c'est... Je sais pas si je peux dire que chez nous, c'était plus qu'autre part, parce que moi, j'ai des... Après, je pense que c'est en fonction du vécu de chacun, mais je sais que nous, des fois, on abuse. Ouais. Faut se dire la vérité, des fois, on abuse. Moi, j'ai des potes, des fois... tu sais, leur mère, elle parlait, je me disais, mais passe-moi la télécommande derrière. Maman, je la vois pas. Regarde, mais elle est bête. Une gifle. Mais tu comprends pas. Et toi, t'es à côté en mode, ok, bon, c'est pas obligé. Mais maintenant, moi, c'est peut-être les gens avec qui j'ai grandi, mais c'était... t'avais des potes à moi qui étaient... je pense surtout à un pote à moi, précisément, dont je tairai le nom.
Si tu nous écoutes.
Mon petit espagnol. Mais, enfin, il se faisait ramasser, entre guillemets, c'est pas bien de dire ça, mais voilà, il se faisait quand même... chez lui, on va dire que l'éducation était plus stricte que l'éducation qu'on pouvait avoir... chez moi, quoi. Je veux dire, c'était exactement la même chose. Je pense juste que ça dépend de l'éducation des parents. Et puis, voilà, moi, je sais que nous, on abuse. J'essaie de nous sauver un peu du code, que j'essaye un peu de nous trouver. Mais je trouve que c'est pas plus pire qu'ailleurs. Maintenant, c'est sûr que pour moi, c'est pas forcément utile, quoi.
Ouais. J'ai de plus en plus de gens sur Twitter, des personnes noires sur Twitter, qui disent faut arrêter. Enfin, ils disent que les.
Oui, non, mais c'est pour moi, c'est que. Alors, je suis un peu mitigée. Alors, attendez, parce que du coup, là, vous me prenez le cours. Moi, je suis d'accord avec une chose, c'est que, effectivement, la fessée, etc., etc., c'est bien que ce soit. C'est bien qu'il y ait une loi pour ça, etc. Bon. Je suis un peu mitigée aussi, parce que d'un côté, je me dis, ah, mais moi, mes enfants, ça se trouve, je vais leur mettre des fessées, etc. Pour moi, la fessée en soi, et c'est ça que je veux bien préciser, c'est que pour moi, en soi, la fessée, c'est pas ce qui va traumatiser un enfant. Et c'est vraiment, ce que je dis n'engage que moi.
Moi, j'ai pas de gosse, hein, donc moi, c'est pour ça que
je dis ça, mais moi, je sais qu'on est venu me parler quand même en privé. Il y a une association, je sais plus c'est quoi le nom de cette association, mais qui est venue me voir et qui m'a dit, non, mais c'est grave de dire ça. J'ai dit, attendez, moi, la fessée, vous l'interdisez, c'est une chose. Pour moi, c'est pas ce qui va traumatiser un enfant. Moi, on m'a mis des fessées. Après, chacun est comme il est. Moi, on m'a mis des fessées, ça, c'est pas ce qui m'a traumatisé. Mais maintenant, toute autre violence, oui, je suis d'accord que ça, faut stopper, parce que ça ne sert à rien. Et t'as juste des souvenirs plus tard, et tu te dis, mais c'est abusé. C'est abusé, en fait.
Moi, ça m'est déjà arrivé de me prendre... C'est l'injustice qui reste derrière,
ouais, c'est
plus
ça.
Que une leçon.
Moi, je parle même des fois, qu'on en parle avec mes cousines, des fois... elles ont des souvenirs de corrections qu'elles ont eues, qui parfois en plus étaient mais vraiment pas justifiées. T'as pas acheté la bonne bougie, il fallait une bougie nervurée, t'en as pris une lisse, tu te manges une savate. Et ça, quand on en parle, c'était pas cool.
Et t'as remarqué que c'est un truc, on a l'impression que c'est quand ça vient de parents, notamment africains, mais plus généralement immigrés, ça, j'ai l'impression que c'est considéré comme plus normal. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est ça.
Mais c'est comme ça, c'est culturel. Alors, t'as la mère blanche avec son gamin blanc, c'est Gonzague, je vais me fâcher au bout de la cinquième fois, tu sais, et puis on dit rien. Ouais. Et puis t'as les parents.
Ouais, il y a ce truc-là aussi.
Ça file droit.
Ouais, c'est ça, les gens, ils voient ça comme ça. Et pourtant, moi, je sais que mes grandes sœurs, avec leurs filles, enfin leurs enfants, parce que là, puis j'ai une majorité, j'ai que des nièces, j'ai qu'un seul neveu, dédicace à Diolani, c'est le seul garçon, le pauvre. Mais je veux dire, tous les autres. Enfin, moi, mes sœurs, j'ai dû les voir taper, et encore taper. Je crois que le mot même taper, il est trop violent déjà. J'ai dû les voir corriger leur fille peut-être une ou deux fois. C'est vraiment parce que vraiment, vraiment, c'était justifié. Et c'était pas au visage, c'était vraiment je te secoue. Enfin, c'était pour faire comprendre à la personne. Mais je pense pas que ce soit une bonne solution, en tout cas.
Pour conclure sur cette question-là, c'est justement, je parlais de Youssoufa Diaby, qui à l'époque disait ouais, c'est vrai, peut-être qu'on est un peu dur chez nous, l'éducation, etc. Bon, en tout cas, on n'a jamais vu de noir chez Super Nanny.
Non.
Et il y a cette idée que justement, il y a toujours, ouais, vous êtes des sauvageons, vous êtes des ci, vous êtes des ça.
Mais...
Et lorsqu'on monte les modèles éducatifs, effectivement, c'est toujours, maman, va te faire foutre, papa,
oui, c'est
nique.
Ça. C'est qu'en fait, il y a. En fait, moi, ce que je déplore, c'est que c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, chez nous, dans une communauté, des fois, on abuse un peu. Mais à côté de ça, il n'y a pas que les coups. Il n'y a pas que les coups, il n'y a pas que ça, il y a autre chose.
Violence morale, quoi.
Bah oui. Moi, ma mère, moi, c'est ce que je dis. En plus, je dis ma mère, c'était des. J'exagère quand je dis ça, j'extrapole un peu, mais quand je dis des violences psychologiques, ça veut dire qu'elle n'avait pas besoin, des fois, de me mettre des fessées ou de me secouer ou tout ce que tu veux. C'est un regard suffisait. Le ton suffisait, les punitions, elle me privait de choses, des fois, qui étaient vitales pour moi. Enfin, c'était, et tout ça. Vraiment, ça suffisait. Elle installait un climat de terreur. Mais vraiment, elle installait un climat de terreur qui faisait que... Non, moi, ma mère, là où elle était forte, c'est que elle nous... quand on faisait une bêtise, elle nous asseyait pendant... Elle nous disait 5 minutes, mais ça durait longtemps. Elle parlait
5 minutes de la RATP.
Mais c'est ça ! De ouf ! Elle parlait des fois pendant une heure. Et elle le faisait tellement que, en fait... Tu t'empêches toi-même, tu te disais non, tu sais quoi, je peux pas faire ça parce que sinon, je sais qu'elle va parler encore, et c'est long. Elle te fait tout son discours, tu sais, elle t'explique, elle te parle de son enfance, elle te parle de ses parents, elle te parle, ah non, c'est trop long. Donc du coup, tu faisais plus rien, quoi.
Tu dis rien.
Ouais, ça marchait bien.
Il y a quelques mois, tu as fait, alors justement, t'as pas fait la première partie, t'as fait l'avant-show. De Farid, tu disais ça dans une interview, tu disais non, c'était pas une première partie, c'était un avant-show.
Ouais, grave.
Tellement c'était justement chaud. Et moi j'y étais du coup à l'Accord Hotel Arena, mais moi j'y étais dans assis, tu vois.
Comment... Dans les sièges pas chers.
Ouais, c'était un cadeau, vas-y. Comment tu vis, c'est une question bête, mais comment tu vis ça de l'intérieur, à Bercy, raconte-nous en deux mots.
Franchement, j'étais pressée, mais en même temps, j'étais stressée. Franchement, je crois que c'est un des moments où j'ai le plus stressé de toute ma vie. Ouais. Bah, c'est pas une petite salle, c'est non. Bercy.
C'est combien de 15 000 personnes ?
C'était 15 000 personnes. Ouh. C'est juste... Et surtout que nous, de là où on est, c'était vraiment... Enfin, je
en
crois
plus,
que même
au milieu, donc vous étiez entouré
ouais,
complètement.
Ouais, en 360. Ouais, je crois même qu'une caméra, même si une caméra était sur mon épaule... On pourrait pas, enfin, ça pourrait pas retranscrire ce que je voyais, quoi. Vraiment, c'était, t'as eu une allée, t'as des gens comme ça sur le côté qui sont assis, parce que du coup, les allées, vous savez, les entrées, elles sont en bas du, ouais, sur le côté. Bon, on a tous vu à un moment donné, un concert à Bercy. Mais c'est que quand nous, on est cachés derrière une barrière, et en fait, on a toute la salle. Et comme là, pour le coup, lui, il a vraiment complété de A à Z, ça montait jusqu'au balcon. Et de là où on était, on voyait plus un moment. En fait, là, c'était tellement sombre qu'en fait, on voyait plus à un moment donné les gens.
La fin, en fait.
Ouais, voilà, on voyait plus la fin et on voyait juste des petites lumières. Donc, on se disait, punaise, mais c'est un truc de fou. Un de nos potes, il y va en mode vraiment. Là, pour le coup, c'était un tirailleur algérien. Il est monté sur scène premier. On était derrière en train de. Enfin, vraiment, on jaugeait. C'était vraiment la première crêpe. On était en train de voir, OK, comment ça passe? Est-ce que les gens sont chauds? Est-ce que les gens sont chauds? Et on voyait que, vas-y, ça marchait. Et plus les gens y allaient, et plus les gens, ils étaient de plus en plus chauds. Et nous, moi, je me souviens, je passais en troisième et je me disais, oh là 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 là. Franchement, j'espère que je ne suis pas la personne qui va venir et qui va plomber l'ambiance. Ah, je te jure. T'as juste peur de ça. Tu dis, mais j'espère que ce n'est pas moi qui vais plomber l'ambiance. Surtout qu'en plus, comme on est beaucoup, on devait faire 4 minutes.
Ouais.
C'est archi court. J'étais derrière, j'étais pas bien, j'ai tiré des parties de mon corps, je ne savais même pas qu'elle s'étirait. J'étais là, j'essayais de trouver une position. Mais j'avoue, hein, franchement. Dès qu'ils t'appellent et que tu passes dans le chemin, moi je savais pas qu'ils allaient mettre la lumière sur nous. Dès que la lumière a été posée sur nous, j'étais en mode OK, d'accord. Et là c'était mort. Là c'est beau. Déchaîné, c'était libérer le Kraken. Ah, j'étais.
Ah ouais?
Ah ouais, là j'étais. Ouais. J'ai fini en voguing, grand écart. Oh, laisse tomber.
Ouais, j'ai vu des. T'as des astuces contre le stress parce que, et le trap parce qu'on a fait deux enregistrements.
On a fait
live,
un live. Deux lives.
Et bon, devant quoi, 150, 200 personnes, on était déjà en train de se liquéfier. Mélanie voulait.
Moi, je voulais rentrer à la maison, quoi.
Ah ouais.
Elle voulait rentrer en Côte d'Ivoire.
De sa mère.
Franchement, des conseils pour le stress.
Si tu me dis respirer, franchement, je te.
Non, parce que, alors, tu sais quoi, moi, ça, je comprends pas. Moi, les gens me disent, non, mais tu respires. Moi, quand je fais. Je respire, je suis encore plus stressée. Je sais pas pourquoi, mais dès que je me dis, vas-y, respire, c'est là où je stresse. Alors que dès que je commence à respirer vite, c'est là où je suis. C'est bizarre. Moi, je pense que chacun a sa façon de. Franchement, je peux même pas te donner de conseils pour le stress.
Sois toi-même, quoi.
Démerde ouais, toi, vraiment... François.
Merci, meuf.
Non, mais honnêtement, je te jure que je suis vraiment pas de bons conseils à ce niveau-là parce que. Moi-même, mon stress, j'arrive même pas à le gérer. Hein. C'est juste quand t'es... Genre, il me regarde, genre, c'est ça. Non, c'est vraiment... Moi, je sais que je suis en instinct de survie. Quand je suis en stress et que je dois faire quelque chose, une scène, par exemple,
une fois que je suis sur la scène, je me dis bon, vas-y, tu sais quoi, il y a pas le choix, faut y aller. Voilà, c'est ça, c'est bon, bah vas-y, maintenant il faut y aller. J'y suis et puis je suis juste en instinct de survie, hein, je suis sur la réserve. Honnêtement, j'ai pas d'astuce, quoi. Peut-être le petit truc que je fais avant de monter sur scène, enfin, quand j'ai des grosses scènes, quand j'ai des échéances par exemple, je sais que. Juste, je me détends, je vais au cinéma, je joue aux jeux vidéo. Et c'est vrai, hein, je joue à GTA, je tue des gens.
Ah oui. On t'avait joué à GTA dans Flick.
Et voilà, quoi.
Quelque chose aussi, tu vois, sur ce spectacle à la Corotel Arena, c'était pas juste un spectacle, c'était pas juste Farid. Moi, j'avais l'impression que c'était une scène, c'était l'émergence, ou peut-être pas l'émergence, mais en tout cas la concrétisation, le triomphe d'une scène. Y a des Lenny Bunga, des Jason Brokers, Farid, etc. C'est ton entourage, c'est les gens avec qui tu travailles.
Ouais. C'est les gens avec qui je travaille, les gens avec qui je traîne. Ouais. C'est vraiment mes potes. On se voit, bon, on est plus qu'on fait la plupart du temps les mêmes plateaux, mais ouais, on se voit. En dehors, c'est des potes dans la vraie vie. Enfin, c'est pas des potes, c'est des frères.
Oh, allez.
Ouais, c'est vraiment. Oui, non, c'est sûr que c'est des frères, parce que vraiment, vu comme on s'embrouille, on se rabiboche, on s'embrouille et se rabiboche, et ça c'est pas avec des potes que tu fais ça, c'est vraiment des frères. Et ouais, on travaille plus ou moins tous ensemble. Et voilà, c'était vraiment juste. Un petit moment de récréation.
Ok.
Ouais.
Non, je te dis ça parce que tout ça, c'est des gens qui se sont en grande partie formés autour du Paname,
ouais.
le fameux café, c'est bar où en fait on a des amateurs comme des gens aguerris qui viennent en fait pratiquer. Mm-hmm. Toi, tu disais que c'était la salle du temps comme
c'est
dans DBZ.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Bah en fait, le Paname, étant donné qu'il y a un plateau par heure, c'est tu peux jouer en fait à 16h, à 17h. Moi, je sais que j'ai déjà fait des sessions comme ça. C'est que j'avais un sketch, je le jouais à 16h, ça passait bof. Je faisais des rectifications, je jouais à 17h. Je faisais encore une petite modification, ça passait pas, je le dis autrement. Je rejouais à 18h, ça c'est pas bon, à 19h. Et en fait, à 22h, bah, ton sketch que t'as peut-être même écrit dans la journée, le soir, eh ben, il est calé beaucoup plus vite. Et après, quand on va dans d'autres salles, bah, on est prêt en fait. Surtout qu'en plus, là-bas, il y a des publics. Le public, il est très éclectique. T'as des vieux, des jeunes, des petits, t'as vraiment de tout. T'as des publics de Paris, de province, parfois même d'ailleurs. Donc, c'est vraiment un endroit où ça te permet de vraiment très, très bien travailler. Mais les scènes ouvertes, même en général, elles te permettent de bien travailler. Et c'est pratique après, quand tu vas sur d'autres scènes, parce que t'es déjà préparé.
Passage obligé, quoi.
Ah ouais, non, pas. Ouais. Passage obligé. Moi, je respecte les gens qui. Y en a qui arrivent à écrire des passages et qui les font directement sur scène ou en télé, etc. Moi, je trouve ça fort. Mais moi, j'aime bien les tester avant. Comme ça, au moins, on est tranquille.
Tu sais que ça rigole.
Il n'y a pas de surprise.
Tu vas pas faire un énorme flop, quoi.
Voilà, il n'y a pas de surprise. Ah ouais.
Kivi, tu vas raconter ton passage au Paname?
Moi, j'attends, j'attends là.
We waiting.
Non, mais c'est parce que dans une autre vie, il y a très longtemps, à un moment, j'ai envisagé la possibilité de faire du stand-up. Et en fait, j'avais un ami qui en faisait à l'époque, Lucien Men.
Mais tu vas en faire un
autre. 2013-2014.
Mais c'est bon là.
Je suis trop vieux.
T'as déjà
En fait, je suis passé deux fois au Paname le dimanche après-midi. Et bien des années plus tard, je t'ai vu aussi sur scène au Paname. Et on va dire que je suis resté guide touristique. C'est mieux.
Ça s'est mal passé. Mais
c'est
pourquoi
pas, c'est pas que ça s'est mal passé, en fait, c'est que j'avais 3-4 minutes, peut-être 5 minutes aller de matériel, un peu osé, un peu hardcore, avec des punchlines voilà, qui sont pas pour toute la famille. Et donc la première fois, je passe, et je me souviens pas du tout de comment ça s'est passé. Et la deuxième fois, je passe, et en fait, j'ai une punchline.
Raconte.
Il peut y avoir le hockey.
Et en fait, je raconte que du coup, dans une autre. Enfin, j'ai
dans
été.
Dans une autre. Autre.
J'ai travaillé en maison de retraite.
Ouais.
Et je raconte que si j'y suis plus, c'est parce que j'ai été pris dans un scandale sexuel avec une femme âgée. Et ma punchline, c'est grand-mère sait faire un boucaqué, grand-mère sait.
Oh
faire.
Mon Dieu.
Donc, du coup,
c'est pas vrai le scandale.
Non, c'est pas vrai. Ah. La deuxième fois que je fais ça, en fait, j'avais rien prévu d'autre, j'avais que ça à dire, et il y avait juste une famille avec des enfants dans la salle. Donc, je fais mon truc, je le dis quand même, je me casse, je vais m'asseoir, et après moi, il y a Lenny Bunga. Qui passe juste derrière moi et qui fait ça va les gamins, vous avez appris des choses avec le monsieur, vous avez des questions à poser à vos parents. Et j'ai fait, je pense
il
que je vais
terminé.
Je pense que je vais arrêter là.
Mais non, mais fallait pas. En plus, ça, c'est, on se le fait souvent, ça. on rebondit, c'est un spectacle vivant.
Mais
ouais.
C'est ça, c'est mais... une vanne en plus.
Bah oui, franchement, on a tous rigolé là.
Ouais.
On verra si j'ai le temps. Il y a un sujet dont tu parles assez souvent et je crois que ça a inspiré Mel. T'en as parlé avec pas mal de finesse, c'est la question du salaire, homme-femme,
de l'argent.
Mélanie, ça t'a inspiré des choses, je crois.
Ouais, bah ouais, moi je me pose des questions sur comment ça fonctionne en fait dans le monde du spectacle, parce que nous, on connaît pas, mais je pense que les auditeurs connaissent pas nécessairement non plus. Et du coup, on en est où de l'égalité par rapport à ça dans les cachets? Est-ce que c'est par rapport à l'expérience? Comment ça se passe?
J'avoue qu'à ce niveau-là, je suis pas super bien calée. Je parle dans mon domaine. Pourquoi? Parce que je demande jamais les salaires aux autres.
C'est opaque.
Non, franchement, moi, je suis très transparente sur ça. Okay. Mais je sais que, par exemple, quand je suis sur une scène, la plupart du temps, je suis payée comme mes collègues.
Tout le monde a la même enseigne.
Ouais, pour le coup, sur certains plateaux. Après, peut-être que sur d'autres, ça change. Mais je pense que dans notre métier, c'est peut-être un peu différent. Je pense que c'est plus à
la
notoriété, à la personne. Ouais, une personne qui négocie. Et puis, si t'arrives à avoir plus, bah, t'as plus. Mais j'ai jamais fait attention. C'est pas que j'ai jamais fait attention, mais c'est que la plupart du temps, on a les mêmes salaires. Mmh. Quand c'est le minimum syndical, ben on a le même. Sinon, ben sur d'autres plateaux, ben les gens, ils aiment pas parler de leur salaire. Mais je sais qu'il y en a qui sont payés beaucoup plus, mais c'est pas parce que c'est des femmes ou des hommes, c'est juste parce qu'ils ont réussi à négocier plus, parce que parfois ils ont une plus grande notoriété, etc. Mmh. Parfois, c'est aussi au nombre de temps que tu fais sur scène. Donc voilà. Après, dans le cinéma, je sais pas. Moi, je sais que c'est moi, pour ma part, en tout cas, c'est en fonction de ce que mon agent négocie. Donc après, je sais pas s'il est. Je pense que ça joue vraiment à la notoriété. Je pense pas qu'il y ait vraiment de.
En tout cas, moi, t'as un agent en plus qui négocie pour toi.
Voilà, c'est ça. Après, il doit peut-être y en avoir, hein, parce qu'apparemment, quand j'entends Viola Davis, etc., il y a vraiment des différences, ne serait-ce qu'entre les femmes noires et les femmes blanches, et puis entre les hommes et les femmes. Donc je pense que oui. Il doit y avoir une différence, mais je sais que moi, ma petite échelle, de là où je suis, en tout cas, j'ai pas vu de différence pour le moment. Ou j'ai pas fait gaffe parce que les gens ils veulent pas dire combien ils gagnent. Oui, ils sont là, ils font les crevards. Ils veulent pas nous dire.
T'avais autre chose que tu voulais ajouter?
Peut-être rebondir sur le cinéma. J'avais aussi une question parce que t'as plusieurs fois dit dans des interviews que t'aimerais bien faire du cinéma, c'est quelque chose qui t'intéresse, le fait de devenir actrice. Et nous, en France, on est dans un contexte intéressant, puisque il y a quelques mois, je sais pas, c'était l'année dernière, Noir n'est pas mon métier, le livre qui avait été écrit par Aïssa Maïga et d'autres actrices noires en France sur justement ce contexte dans le cinéma, avec un peu les problèmes qu'on pouvait rencontrer, la difficulté d'avoir des rôles, le racisme pas toujours très subtil qu'on pouvait subir. Et j'aimerais bien savoir ta position sur ça, savoir si tu as eu des expériences, si ça s'améliore. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui quand on est une femme noire et qu'on veut faire du cinéma en France?
De ce que j'ai à dire, c'est que les actrices de noir n'est pas mon métier. Elles ont raison. Non, mais écoute, moi j'ai lu le livre d'ailleurs, et puis c'est pas que j'ai pas été étonnée, mais c'est que je me suis dit ouais, c'est vrai. Franchement, c'est absolument vrai. Et je sais que il y a certaines choses qu'on peut lire dedans. Moi, il y a certaines personnes qui m'ont dit ouais, mais ça c'est abusé. Mais je leur dis, mais si vous saviez, on peut tout entendre, on peut tout voir. C'est vraiment c'est extraordinaire. Moi, oui, j'ai déjà eu. On m'a déjà dit clairement à plusieurs reprises, oui, écoute, même des gens avec qui j'allais travailler, écoute, franchement. Je te dis honnêtement, ça va être compliqué parce que t'es noire et que ça va être compliqué. Bon, on fera le nécessaire, on va travailler. Si on a un truc, on te dira. Mais c'est clairement, t'es noire, ça va pas être facile parce que voilà, aujourd'hui il y a pas de noire. Il y a pas de d'actrice noire. Et puis surtout, moi mon avis, c'est que aujourd'hui j'ai l'impression qu'avec toutes les pressions qu'on met, étant donné que maintenant on commence à plus parler, à se lâcher, à dire c'est bon, vraiment on en a marre, j'ai l'impression, moi vraiment, que les choses commencent à changer lentement, mais je pense qu'à un moment donné ça va changer. Maintenant, c'est vrai que moi, le sentiment que j'ai eu pendant longtemps, et que j'ai quand même encore un peu, c'est que c'est vrai que en fonction des communautés, il y a toujours une personne qui représente. Ça veut dire, par exemple, un homme, tu vas avoir... Et pourtant, il y en a... Alors, par contre, il y a une petite parenthèse, c'est qu'il y en a plein. Mais c'est juste qu'ils ne sont pas médiatisés et ils ne sont pas...
Tête de gondole, quoi, c'est ça ?
Voilà, il y a toujours une tête de gondole. Et puis les autres, c'est, ça va être des trucs un peu secondaires. Tu vois, par exemple, l'homme, tu as raison, tu as Omar Sy. Après, tu as...
Omar Sy.
Ouais. Après, en plus jeune, mais après, tu sais, t'as pour le plus âgé, on va dire, adulte, t'as Omar Sy, plus jeune, t'as Ahmed Silla.
Après, Sy n'est pas dispo.
Voilà. Après, t'as Aïssa Maïga. Et après, en plus jeune, t'as Khadija Touré. Et tu vois, c'est ça je trouve que c'est toujours comme
quatre,
ça. C'est, dès qu'ils en laissent passer un, et on est très contents, parce que franchement, la preuve, dès qu'il y en a un, on est tous en mode, ouais, vas-y, dis-le, Omar, dis-leur, ouais, moi, en tout cas, on est trop contents. Mais à côté, on se dit, punaise, ça serait trop bien. Lui, il peut rentrer, il ouvre la porte. Pourquoi vous laissez pas les autres entrer, en vrai, les gars? Tu vois, c'est juste ça qui est dommage. Mais je trouve que, voilà, que les temps changent et que... Voilà, moi, je pense et j'ai confiance, je suis sûre qu'à un moment donné, ça va... Alors, je dis pas que ça va être parfait.
Ouais.
Je dis pas que
la qualité
parfait,
sera
mais
toujours,
je pense que ça va beaucoup plus s'ouvrir parce que les gens commencent à en avoir marre et puis même là il y a une nouvelle génération qui arrive, que ce soit au niveau des réalisateurs ou quoi que ce soit, donc
puis même le public est là, la demande est là,
oui,
en
c'est
fait
ça,
les gens
surtout,
en ont marre.
C'est surtout ça, c'est qu'il y a de la demande. Donc, allez-y, les gars.
Ça me fait penser à Farid au Molière. Comment t'as réagi? T'étais au courant que ça allait se passer?
Pas du tout.
Le Salut les Blancs?
Pas du tout.
Ouais.
Moi, je me souviens qu'il était chez moi, il écrivait. Mais comme on travaillait aussi sur mon truc, en fait, on travaillait sur mon spectacle.
Ouais.
Et lui, il écrivait en même temps.
Ouais, donc vous
ça veut dire, ouais,
votre truc.
Parce que lui, c'est un peu un truc guillemets. Voilà, il a un cerveau. J'ai failli dire une bêtise. Heureusement que je me suis calmée. Mais il est vraiment, il a le à ce niveau-là, il a vraiment le cerveau qui se dédouble. Ça veut dire que vraiment, moi, je disais, ouais, je pense à tel van machin, et donc il me trouvait des trucs. Et en même temps, il est en train d'écrire son truc. Et moi, je me suis dit, vas-y, il fait ça à l'arrache, vas-y. Ça va être vite fait, tout ça, sachant que j'étais sûre qu'il allait pas le faire. Et quand j'ai vu le truc, j'ai dit non. Le Salut les Blancs, j'ai mis pause, j'ai dit mon Dieu.
Moi, j'ai rebobiné en mode rewind.
Non, mais tu sais ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai mis pause et après, je bouchais mes oreilles comme ça et je voulais juste voir les réactions des gens avant de re-regarder. Genre, attends, il a osé, attends. Ça va, ça réagit bien. Ok.
Mon seul regret, c'est que Farid ait pas une GoPro.
Ah, je
et qu'on voit vraiment la gueule des.
Ah ouais, non, mais laisse tomber, parce que déjà, il y avait des réactions, je disais, ouh là 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 là.
Il y en a, tu sentais que ça transpirait dans la raie, là.
Ouais. Mais par contre, ce qui est drôle, est-ce que c'est le moment où il parle de son producteur, et là, ils font genre trois focus sur son producteur. Non, donc voilà, quoi. Mais oui, non, mais... voilà, je pense que moi je pense qu'on est sur la bonne voie. Moi je suis très positive à ce niveau-là. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a, comme je citais tout à l'heure, il y a plein de gens qui ont ouvert des brèches. Omar Sy, Déborah. J'ai parlé de Khadija Touré, mais c'est pour ça que je dis que les temps changent. C'est que l'année dernière, c'était l'année dernière que Déborah Lokomoyana elle a eu son César. Il y a eu Alice Diop, enfin Maïmouna Doucouré. Donc je pense que vraiment toutes ces choses.
Assassila aussi. Donc,
ouais, Assassila aussi. Enfin, en plus, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs et d'actrices noires. Mais voilà, c'est juste que ça serait cool qu'on les voit beaucoup plus. Parce qu'il y en a. Hein.
Nos talents commencent à être vraiment difficiles à nier, en fait.
Voilà, c'est ça.
Excellence is here.
Les Noirs n'ont pas de talent, restez chez vous.
Ouais, c'est ça. Et puis, c'est surtout... moi, je me souviens, il y a des années, quand Omar Sy a eu son César...
C'est 2012.
2012.
Ouais, c'était en 2012. Putain, déjà.
Ouais,
hein. Eh oui.
Oh, on vieillit. 7 ans. Oh, mon Dieu. Et moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que... Après, il a fallu qu'il parte aux États-Unis pour avoir vraiment des rôles, mais extraordinaires. Alors, Intouchable, c'était vraiment magnifique. Moi, Intouchable, j'ai dû le voir 3-4 fois.
Son rôle dans X-Men, c'est éclaté au sol.
Oui, mais non, mais c'est sûr. Franchement,
Jurassic Park, c'était.
C'est sûr que c'est pas.
Mais bon, il a touché le chèque.
En fait, c'est que c'est sûr que c'est pas des rôles où tu le vois vraiment.
Mais c'est pas des rôles qu'il aurait eu en France, quoi.
Ouais, c'est vraiment des films quand même. C'est des blockbusters. Dans le film qu'il a fait après avec Tom Hanks. Honnêtement, je sais pas si vous l'avez vu, ouais. Je sais plus comment il s'appelle, parce que
pirates,
je confonds.
Non,
tu sais, il y a Ange et Démon.
Ah oui.
T'as Da Vinci Code.
Ah,
il était dans un 2 et il est dans les tout débuts et tout ça.
Ah,
il a
oui.
vraiment un rôle important. Et moi je trouve ça trop bien. C'est que dans tous les cas, il a été aux États-Unis. Et quand bien même les rôles n'étaient pas importants, c'était dans des blockbusters, ça veut dire qu'ils lui ont quand même fait confiance. Ils ont dit, bah, mon gars, viens. Bon, c'est petit, hein, mais viens. Et ça lui a permis, après, bah, ouais, ça lui a donné crédibilité.
Ça lui fait son CV. Jean Dujardin qui a eu accès à ce genre de rôle-là aux États-Unis.
Mais même maintenant, il en revient un peu, j'ai l'impression, Jean Dujardin. Il a fait Scorsese et puis maintenant, Brass de Nice, quoi.
Sur toujours le thème de la diversité, on en discutait avec François du JCC. Diversité. Mm-hmm. On parlait du JCC et du fait qu'il y avait des gens qui. C'est quoi, François ? Des gens qui se plaignaient de l'humour communautaire. Est-ce que tu peux un peu développer ?
Parce que dès que. Enfin, moi, j'entends souvent ça dans les commentaires, dans la bouche de gens que je connais, etc. C'est que dès que tu commences à parler de la nouvelle scène humoristique française, et notamment plus spécifiquement du stand-up, on va dire, j'entends des gens dire Ah ouais, mais un tel ou une telle, bon, bah, ça va encore être de l'humour, entre guillemets, communautaire, en mode, bah ouais, ça va être des blagues sur. Si c'est des Renois, bah, sur des blagues sur les Renois, le fait d'avoir des parents Renois. Si c'est des Rebeux, bah, pareil, la même chose, l'équivalent, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mmh. Et même si, bon, je ne suis pas du tout en ligne avec. Le sentiment d'où provient en fait ces remarques, parce que souvent c'est les gens qui en fait ne sont juste pas contents de voir débarquer ce type de gens là dans le stand-up, donc c'est pas pour ces raisons là que je le pense, mais je dois admettre que quand je regarde l'offre humoristique en France, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humoristes qui se ressemblent, et je trouve que c'est un peu la même chose tout le temps, et en plus on a même numériquement on a beaucoup d'humoristes, qui est une bonne chose, mais du coup bon, il y a une forme d'homogénéité, et je trouve que c'est difficile de sortir du lot. Je trouve que tu sors du lot, et je dis pas ça parce que t'es une anti. Non, mais je trouve que c'est difficile, en fait, du coup, tu vois ce que je veux dire?
De faire
la diff. Comment est-ce que toi, tu perçois ça?
Bah, écoute.
T'en parlais un petit peu en plus au début de l'émission, tu sais, quand tu disais, ouais, on va croire que je vais faire ci.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, si tu veux, je pense que ce problème-là, l'humour communautaire, il y en a qui disent clairement l'humour black blamber. En fait, il y a une chose, c'est que je pense, il y a deux choses. C'est que d'un côté, je suis d'accord, mais d'un côté, non.
T'es encore mitigé, c'est ça? C'est la troisième fois depuis le début
de l'émission. Non, c'est pas que je suis mitigé, c'est pas ça. Mais c'est qu'en fait, ce que j'essaie de dire, c'est pourquoi les gens ont un ras-le-bol. Déjà, c'est parce que, comme tu l'as dit, on est beaucoup. On est vraiment beaucoup, 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 beaucoup.
Ce qui est aussi une bonne chose.
Ça change
pour une fois qu'il y a un endroit où on est beaucoup dans le spectacle.
On est beaucoup. Donc du coup, souvent nos vécus, je m'inclus dedans. Comme ça, on dit pas, je fais pas genre, ouais les gens. Je m'inclus dedans, c'est que souvent nos vécus se rapprochent. Donc du coup, si tu mets 5 personnes qui ont eu le même vécu sur une scène, effectivement, à un moment donné, elles vont parler de sujets similaires. Maintenant, là où je suis d'accord, c'est vrai que il y a beaucoup de sketchs, et même moi par le passé, dans mes débuts, je vais pas mentir, moi aussi ça m'est arrivé de faire des sketchs, c'est comme on dit, c'est les premiers sketchs, c'est la facilité, c'est les premiers je disais pas ça parce que pour le coup c'était pas ça, mais c'était les t'entendais les ouais ma mère à la maison elle nous faisait ça machin parce que c'était les premiers sketchs, les premiers trucs que t'as envie de partager. Maintenant c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui ça fait suffoquer, on suffoque. Mmh. Même nous, en tant qu'humoristes, des fois, quand on se voit et tout ça, on se dit oh là là là, c'est trop les mêmes choses. Je pense juste que le seul moyen, je pense, de se différencier, c'est juste de parler de soi, mais juste de. Je sais pas comment expliquer ça, parce que dans ma tête, c'est très logique, mais juste de donner de raconter son vrai vécu. Parce que souvent, et ça, c'est vrai que c'est l'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils racontent les choses comme tout le monde va le raconter. D'accord. Alors que quand tu refocuses vraiment, quand tu parles avec eux, dans leur vie, c'est pas du tout ça. C'est juste pour la vanne, pour faire rire. Mais quand tu es chez eux, quand tu te racontes, ouais, chez moi, ça se passait comme ça, tu te dis, mais c'est pas ça, en fait. Tu vois, en fait, c'est qu'il a fait un truc global, alors qu'en fait, si tu rentres bien dans les détails, il y a beaucoup plus de choses
à dire.
Il
faut chercher plus profond.
Oui, je pense qu'il faut chercher beaucoup plus profond. Et puis,
une manière de dire les choses qui soit propre à
soi. Oui, voilà, qui soit propre à soi, à sa façon, parce que c'est vrai que. Mais c'est pas facile, parce qu'on est. Franchement, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, à un moment donné, il y a des sujets.
Ça revient.
Mais c'est marrant, parce que quand dans un endroit, il y a beaucoup, beaucoup de blancs qui font la même chose, on dit pas ouais. Enfin, si, nous, on le dit, parce qu'on dit ouais, allez-vous.
Parce qu'on est chiant.
Ouais. Mais la plupart des gens ne sont pas choqués, tu vois, que par exemple, moi j'ai vu du stand-up j'étais aux États-Unis l'année dernière en vacances, et en fait il y a eu, je sais pas, 5 mecs blancs qui se sont succédés, ils ont tous fait la vanne, genre « Ah, un mec blanc, c'est dur d'être un mec blanc aujourd'hui !»
Les Américains le savent, les Américains blancs savent qu'ils sont blancs.
Ouais.
Donc, bah, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils se ressemblaient, du coup.
Mais oui, ils se ressemblaient, et les gens étaient pas genre... Enfin, non, les gens étaient contents, tu vois.
Bah, en fait, je pense que en France, pour le coup, ce qui a été, ce qui a pas, entre guillemets, aidé, c'est que quand le Jamie Comedy Club est arrivé, c'est une très bonne chose. Parce que voilà, on a pu... Y a des gens qui, voilà, par exemple, issus de la banlieue, qui ont... Mon oreille, comment elle chauffait. Des gens qui sont, voilà, issus de la banlieue, de minorités, qui, voilà, qui étaient les entre guillemets les précurseurs qui ont raconté toutes ces choses-là, qui avaient parfois un humour plus ou moins communautaire, mais c'était les premiers. Ça veut dire que personne n'en avait parlé avant, donc ça c'est un truc que, entre guillemets, tu pouvais entendre. Tu te disais, bah, c'est trop drôle, c'est les débuts, quand t'écoutais Patson, Thomas Ndijol, etc., tu disais, putain, mais c'est trop drôle, c'est trop vrai, etc. Mais c'est vrai qu'après, ce que je regrette, c'est qu'en fait, ce truc-là, il est peut-être trop resté. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont juste recopié. Ouais. Alors que je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de, choses à dire. C'est une fois que la personne elle a raconté ça, ça sert à rien de le re-raconter 4000 fois, en fait. C'est que ça a déjà été dit. Et c'est ça qui fait que les gens, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus exigeants. Alors, en plus, avec Internet, les réseaux, etc., il y a plein de vidéos qui fusent. Les gens, ils sont vraiment très exigeants. Ouais. Ils sont, ouais. Ils se disent, ouais, mais ça, c'est bon, on l'a déjà entendu. Ouais. Donc, c'est compliqué. Hein.
Ouais.
Ouais.
C'est compliqué. Le JCC, pour toi, ça a été vraiment, j'imagine, un bon tremplin. Et là, maintenant, tu arrives à la fin de cette tournée sur Plus drôle que la plus drôle de tes copines. Faisons le bilan calmement. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu retiens de ça? Tu l'as présenté pendant combien de temps, ce spectacle?
Ce spectacle, je l'ai présenté. J'ai commencé par faire des showcases.
Ouais.
Donc, on va dire 2017.
Ouais,
2017. C'était une exploitation qui a été assez courte. 2017, je l'ai beaucoup joué. Après 2018, c'est là où je l'ai joué vraiment plus régulièrement, 3 fois par semaine, pendant un an
et
demi.
Point virgule, c'est ça?
Ouais, au point virgule. Et je dirais, depuis 2017, 2 ans. Deux ans d'exploitation. Par rapport à d'autres spectacles, c'est beaucoup plus court.
D'accord.
Mais vous savez, quand on fait un spectacle, moi en tout cas, je me lasse très vite de ce que je raconte. Et 1 heure, c'est pas assez pour raconter. C'est pas assez pour se raconter et pour parler de tout et de rien. Donc voilà, c'est nécessaire là maintenant de passer à autre chose. Et voilà, je pense que avoir beaucoup montré ce spectacle, j'ai pas fait de tournée, mais on va dire ce spectacle, c'était un peu le premier, comme je disais tout à l'heure, la première crêpe, le premier test. C'est mes premiers. Mes premiers amours, voilà, mes premières histoires.
Tu disais que tu l'avais joué en Guadeloupe, non? C'est pas celui-là que t'as joué, celui-ci que t'as joué?
En fait, en Guadeloupe, j'ai pas eu l'occasion, j'aurais aimé le jouer en entier. En fait, non, c'est quand j'ai été avec la troupe.
D'accord.
J'ai joué 12 minutes
d'accord.
seulement. Mais ouais, j'aurais bien voulu le jouer en entier, hein, ça aurait été trop bien.
Tu disais
juste, petite pause, on est à 55 minutes.
Ouais, dernière question. Tu disais que tu t'étais retrouvé face à des murs de rire quand tu étais en
Guadeloupe.
Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé comme ça?
Alors, je me souviens plus, c'était dans un... peut-être que vous allez pouvoir m'aider. C'était un gymnase.
Ah, ça doit être aux Abîmes, ça, je pense.
C'était un grand gymnase, ils appelaient ça, mais eux, ils disaient que c'était comme un palais des sports.
Okay.
J'ai honte de ne pas me rappeler du nom, mais vraiment, c'était incroyable.
Okay.
C'est comme si tu étais à Bercy, tu avais juste un parterre, un balcon, et c'était vraiment juste un truc comme ça. De 3000 personnes, c'était juste fou. C'est vraiment une des plus belles scènes que j'ai faites. Dès qu'on lançait une vanne, mais on se prenait mais des vagues de rire. Tu sais, limite, tu lâches une vanne et tu te lèves. Attention, les gars, est-ce que j'arriverai à faire la deuxième? Et là, il m'a dit, attention. Alors, c'était incroyable. Non, franchement, c'était juste... C'était trop, trop bien. On a fait Guadeloupe-Martinique. Mais désolé les gars, la Guadeloupe, c'était vraiment...
C'était mieux.
Non, la Guadeloupe, honnêtement...
Désolé, c'est la fin de l'interview.
Non, désolé. La Martinique, c'était trop...
Oula.
Sachant qu'en plus, on a joué 2 fois Martinique. Mais la Guadeloupe, mon Dieu, c'était... C'était
la Guadeloupe, ça vaut 2 fois la Martinique.
Arrête de retourner ta veste. Et surtout que... Guadeloupéen, tu joues...
À la différence, c'est qu'en Martinique, quand on est sorti et tout ça, les gens, tu sais, ils sont restés. Il y a des gens qui sont restés, tout ça, machin. Bon, il y en a qui sont partis. Mais en Guadeloupe, tu sais, en plus, ils avaient un peu pitié de nous. En Guadeloupe, par contre,
ce niveau-là, et c'est 3000. Je ne pense pas qu'ils sont restés 3000 dehors, mais il y avait du monde et ils ne nous ont pas laissés. Hein. Maintenant, mais ils vont devoir y aller, mais encore une photo, ils ne vont pas revenir. Et nous, ah, laisse tomber. C'était non, trop, trop bien. Oh là là.
Okay. Alors, je peux te poser une dernière question rapide. Dans ton interview dans Click, tu parles pas mal des actrices américaines afro-américaines qui t'inspirent. Tu parles de Taraji P. Henson et d'autres. Est-ce que tu peux m'en dire juste un petit peu plus? Je suis curieux de savoir un peu comment tu, parce que tu puises dans ton propre héritage culturel, mais tu regardes aussi beaucoup du côté des States, comme on manque de représentativité ici, surtout du côté femme noire. Dis-moi un peu plus sur les meufs que t'aimes bien. Quels sont les derniers films que t'as kiffé, par exemple, afro-américains?
Le dernier film que j'ai vu. Et il n'est pas sorti en France d'ailleurs, c'était à La Brown Sugar.
On aime ça, la VO.
Ouais, d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez La Brown Sugar, mais c'est ouf. Ah, c'est trop
on
bien.
Était censé y être.
Enfin,
Mélanie,
j'étais là. Ah oui, vous m'avez lâché, mais moi j'étais.
Dommage pour vous, hein, parce qu'il y avait un film Little.
Ah,
oh là 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 là. Vraiment, Little était extraordinaire.
Ah, c'était marrant.
Alors, l'actrice, j'ai peur de.
C'est Yara Shahidi, non?
Non,
audacieux.
C'est Marseille Martin.
Voilà, Marseille Martin, qui a 14 ans, et Regina Hall, et
Issa Rae,
parce que j'ai le bug à chaque fois que je vois la tête d'Issa Rae et Issa Rae. Et franchement, le film était magnifique. Mais j'ai tellement ri et je regrette qu'il sorte pas en France. Vraiment, je regrette.
Mais il va sortir en août, apparemment.
Je crois.
Ah ouais,
ouais.
Ah, c'est une bonne nouvelle. Quand je parlais avec Didier, il me disait que c'était pas sûr. Ok, d'accord, tu m'apprends une chose. Mais je suis pressée que les gens voient ce film. Parce qu'honnêtement, j'ai kiffé. D'accord. J'ai ri. Vraiment, c'est vrai que
elle est super forte, Marseille Martin.
Ouais, elle est vraiment drôle. Cette petite, elle est incroyable. Elle avait un charisme. Elle était vraiment à la même hauteur que ses collègues qui étaient beaucoup plus âgés, qui ont plus d'expérience, sûrement. Mais c'est vrai que je regarde souvent du côté des États-Unis pour rêver, on va dire. D'accord. Et me dire, ouais, c'est possible, en fait.
Et donc, pour finir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te retrouve à LA pour la prochaine saison d'Insecure, à côté de Sarah.
Bah, franchement, j'aimerais bien, parce qu'il y a plein de gens en plus qui me disent, ouais, Fadili, il y a un air de ressemblance, donc peut-être que je pourrais faire à sa cousine.
Sa cousine de France, parce
quelque chose.
Bonjour,
Issa.
Elle est sénégalaise. Elle est d'origine sénégalaise.
Elle parle français,
Elle parle français, vraiment.
Ses parents sont connus à Bordeaux, apparemment.
Bon, elle peut venir.
C'est une sénégalaise.
T'es la cousine, tu seras la cousine.
En plus, je te jure, il y a moyen que ce soit une cousine, franchement. Issa, si tu m'entends.
Tu sais quoi? Ce sera elle qui viendra, ce sera elle ta cousine.
Voilà, je te jure, c'est ça.
Bon, pour finir, on te retrouve dans deux films en 2019.
Tout à fait.
Du doublage aussi.
Tout à fait. Oh, mes messieurs sont bien renseignés.
Ah, mais attends,
Wikipedia.com.
Est-ce que c'est de la Disney Money ou pas? Le doublage, c'est de la Disney Money ou c'est autre chose?
C'est autre chose. D'accord. Mais qu'est-ce que j'aimerais Disney, c'est toute ma vie. En plus, ce serait ma petite vengeance, entre guillemets, parce que j'ai travaillé à Disney. Donc j'aimerais bien revenir en mode, c'est l'avant-première, c'est moi qui fais un personnage, je reviens dans le parc, c'est privatisé, ok. Mais oui, il y a du doublage et du doublage de dessins animés et deux films. Deux films qui vont sortir cette année. J'ai juste répété ce que vous avez dit, en fait.
Tu peux en dire plus?
Des comédies, des
drames, bien sûr. Alors, c'est pas une comédie, d'ailleurs, c'est un rôle dans lequel on m'attend pas du tout. C'est dans C'est la vie de Julien Rambaldi. Ensuite, il y en a une autre, c'est une série qui s'appelle Mytho, qui sort cette année aussi, qui a été primée d'ailleurs à Sérimania. Je suis fière de le dire.
C'est un très bon festoche.
Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire.
Stuart.
Ensuite, j'ai un autre film, mais là encore, ça sortira pas en 2019, ça sortira début 2020. Les deux autres films, ça sortira début 2020. D'accord. Et ça, pour l'instant.
Donc, t'es booked and busy.
Ouais, papa.
Trop bien, trop bien.
You on essaye un peu, hein.
Tu restes avec nous, on va faire les recommandations.
Il est bien, hein, notre jingle.
Ah, il est super, j'aime. Alors, moi, ma première roco, c'est une expo, parce que c'est l'été, et en été, il faut se cultiver aussi. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'ailleurs, le Centre Pompidou l'a compris, puisqu'il organise pour la première fois de toute son histoire entière une rétrospective d'un artiste africain. C'est la première fois, 2019. Donc, il s'agit de l'expo autour d'Ernest Mankoba. Donc, il est franco-sud-africain. Et l'expo s'appelle « I Shall Dance in a Different Society ». Donc, l'événement a ouvert il y a quelques jours, le 26 juin. Donc, qui est ce monsieur, Ernest Mankoba? C'est un peintre, sculpteur, dessinateur, écrivain, etc., etc. Il faisait plein de trucs. Et il a vécu presque un siècle. Il est entre 1904 et 2002. Donc, ce qu'il faut savoir sur lui, c'est qu'en 1938, il part d'Afrique du Sud, il fuit l'apartheid, parce qu'il ne pouvait même pas être artiste là-bas à cause de l'apartheid, en fait, à cause du système. Dès qu'il arrive en France, il est directement interné en camp de travail par les Allemands, parce que bon, c'était...
Ah, c'est les années 40
À 1938, hein, il a bien choisi.
Quand il arrive, quand il est interné, en fait, il est citoyen britannique, officiellement.
Exactement, donc, c'est ça. Donc, en fait, on lui dit « Girl, ouais. viens ici ». Et du coup, après, il va vivre au Danemark. Alors, Manco Basque, c'est de l'art abstrait, hein. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup de peinture et de sculpture abstraite où il essaye d'exprimer ses idées. Il appartient un temps au mouvement danois Cobra, mais c'est assez intéressant parce que c'est le seul noir du mouvement et on l'appelle le point noir de Cobra. Donc au bout d'un moment, il dit « Ok, fuck that shit » et il se casse et il revient en France. Il s'installe à Montparnasse avec sa femme qui est elle aussi artiste et il va rester à peu près toute sa vie à Montparnasse. Donc dans son art, il parle beaucoup de spiritualité, c'est quelque chose qui est hyper important pour lui. Mais dans un cadre toujours très réfléchi, érudit, il y a des références, parce que c'est hyper important pour lui, parce qu'il est notamment journaliste de formation. Oh. Donc voilà, il essaye notamment à la fin de sa vie, après la mort de sa femme, de créer un espèce de langage universel pour exprimer des idées qu'on n'arrive pas à exprimer tellement elles sont fortes. Et ça s'appelle « The Unspeakable ». Alors, j'aime bien l'histoire du titre de l'expo, parce que c'est une petite histoire d'aliénation, comme on en connaît souvent en France. En fait, quand il arrive en 1938 à Paris, il cherche à apprendre à danser, c'est un truc qu'il a envie de faire. Du coup, il trouve un manuel, il s'entraîne dans sa chambre, et un soir, il y a un ami à lui qui l'amène au Bal Nègre.
Bien sûr, rue Blomont.
Voilà. Voilà. Il arrive, il est un petit peu mal à l'aise, mais son ami lui dit « Bah viens danser hein.
Alors,
viens, c'est chez toi !» Et du coup, il lui répond « I shall dance in another society. » Voilà. Donc, je termine juste sur une petite citation pour raconter un peu sa pensée. Assez révolutionnaire. L'Angleterre, le Danemark, la France, chaque pays a sa propre façon de voir les choses. Ils se sont mis d'accord sur le fait qu'en Occident, ils constituent la totalité de l'humanité. Chacun des autres pays et le reste du monde n'essaye qu'en vain de devenir comme l'Europe. J'essaie de montrer ma lutte pour que le reste du tiers-monde soit inclus comme faisant partie de la totalité de l'humanité. Le tiers-monde doit être pris en considération tel qu'il existe. Je veux que cette séparation, cet apartheid, soit écartée et que toutes les espèces humaines avancent main dans la main. C'est tout. Donc, beau gosse.
C'est fort.
C'est une grosse liste au Papa Noël quand même. Hein. C'est juste...
Faut bien commencer quelque part. Hein. Du coup, du 26 juin au 23 septembre 2019 au Centre Pompidou à Paris, si vous êtes de passage dans la capitale. Et ma deuxième recommandation, elle arrive un peu tardivement, mais elle vaut vraiment le coup, c'est le livre Petit Pays de Gaël Faye. Dans la vie, parfois, on passe toujours à côté des bonnes choses hein, quand elles sont là. Moi, c'est un livre que j'ai pas lu quand il est sorti en 2016. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que la plupart de mes potes renois sont aussi passés à côté. J'ai mené mon enquête.
Je l'ai pas lu non plus.
Je sais pas, vous l'avez lu ?
T'as 35 ans en fait, donc t'étais pas au lycée au moment où le truc était au
programme. Non, mais il a eu plein d'autres prix. Il a eu le prix du premier roman.
Oui, mais il a été au programme aussi, tu vois. Et donc, c'est vrai mais... quand il est sorti, il a percé ce bouquin, tu vois, t'étais déjà trop vieille.
Mais non, mais c'était un succès. Non, mais ce que je te dis. J'ai une théorie sur ça.
Je plaisante.
J'ai une théorie sur ça. Parce que, en fait, le truc, c'est que parfois, j'ai l'impression qu'il y a des œuvres qui sont cooptées, en fait, par la majorité blanche, qui les exotisent un mac. Genre, oh, un livre sur l'Afrique, un livre sur la guerre, les petits-enfants pendant la guerre. Et que, du coup, nous, ça nous donne un peu la flemme, en fait. Enfin, on se dit, ouais, ok. Alors que pourtant, on est concernés par ces histoires, quoi. C'est nos histoires, en fait. Du coup, Petit Pays de Gaël Faye, ça raconte l'histoire de Gabriel, qui est un adulte à Paris et qui fait revivre ses souvenirs d'enfance. En 1993 au Burundi, donc près du Rwanda. Ses souvenirs, c'est qu'il vivait avec son père blanc et sa mère rwandaise. Et en fait, c'est une histoire de quartier, quoi, avec ses amis, il faisait les 400 coups. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire d'enfance qui vient se faire faucher en fait, par la guerre qui se déclenche en 1994 et le génocide rwandais. Alors, quand il est sorti le livre, 2016, petit prix a obtenu prix du roman FNAC, prix du premier roman français, prix Goncourt des lycéens, comme tu disais François, et le prix des étudiants en France Culture Télérama. Mais si vous allez sur la page Wikipédia, il y a plein d'autres trucs. En fait, ça a été vraiment un blockbuster de l'édition, quoi. Et donc, ce qui est assez étrange, c'est que moi, quand j'ai commencé, j'ai trouvé ça incroyable, en fait. Et c'est vraiment une histoire qui est, pour nous, en fait. Enfin, c'est, ça prend aux tripes directement, ça raconte plein de choses intéressantes, du genre les Français racistes qui se gavent dans les pays africains, qui vivent
pas.
En Afrique,
ça
et qui, voilà, qui traitent les Noirs de macaques, enfin, tout va bien. Ça raconte les Africains qui veulent pas apprendre les dialectes des pays à leurs enfants métis, parce qu'ils disent, de toute façon, toi, t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin d'apprendre ça. Ça raconte les différences de classe, mais aussi, ça raconte l'innocence, le bonheur, du calme avant la tempête, et ça raconte l'exil. Enfin, c'est hyper intéressant. Gaël Faye, il est chanteur, rappeur, auteur, compositeur et interprète. Le mec, il a une double carrière, quoi.
Ah ouais.
Donc, en fait, il a l'habitude des mots.
Ah, il rappe aussi.
Oui,
il rappe. J'avoue, je m'étais oubliée, là.
Et donc, voilà. Petit pays, un roman plein de style, plein d'émotions. C'est très, très bien écrit. Ça raconte l'enfance, l'âge adulte, les traumatismes à travers les générations, l'exil, la construction de soi. Juste, il y a une adaptation ciné qui est en cours avec Jean-Paul Rouve dans le rôle du père.
Okay.
Et attention, je vais sûrement écorcher ce nom. Djibril Van Coppenol dans le rôle de Gabriel. Je pense que c'est peut-être son premier rôle, je pense. Et... à la réalisation, Éric Barbier, réalisateur notamment de La promesse de l'aube avec Pierre Niney. Donc, pour une fois, un film avec des Noirs qui ne sera pas une comédie. On ne sait pas quand est-ce qu'il arrive. Mais à lire cet été, si ce n'est pas déjà fait, Petit Pays de Gaël Faye.
Alors moi, je vous recommande une émission qui s'appelle Cotton Club. Le nom peut paraître offensant comme ça. Non, c'est un talk show un peu sur le modèle de des émissions de style Paris Dernière, je sais pas si tu te souviens, ou C'est à vous. Donc en gros, c'est des invités autour d'une table, autour d'un bon dîner réalisé par un grand chef d'ailleurs. Et en gros, on a une animatrice qui s'appelle Devani et on discute de choses et d'autres.
Quand tu dis on, t'es dans l'émission ?
Eh bien, oui, figure-toi. Mais c'est pas dans cette... Bon bref, voilà, en gros c'est ça. Mais évidemment c'est Black People Only, Forest Bios, tu vois. Je vous mets le petit générique vite fait. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Mais ça dépend de la couleur de votre peau.
Bonsoir à tous. Oh, this you crazy mother... Donc l'émission a été entièrement imaginée et conçue par deux femmes qui s'appellent Devani, donc qui est aussi l'animatrice, et Kadi Tabouret. Et donc c'est super intéressant parce qu'elles sont pas du tout journalistes de formation et pourtant elles ont fait un super taf de préparation des sujets, de conception de l'émission, et puis même l'interview est menée d'une main de maître par Devani. Et donc voilà, à chaque fois, à chaque épisode, il y aura des invités différents, donc trois invités différents à chaque fois autour de la table, avec l'excellent repas réalisé par un chef qui s'appelle Michael Taubira, no relation.
Okay.
Et plein de sujets, notamment liés, tu sais, à la culture, à la construction, et à d'autres sujets transversaux sur l'identité noire. C'est super intéressant et c'est superbement réalisé. Pour le peu de moyens qu'elles ont, puisqu'elles ne sont pas du tout des professionnels de l'audiovisuel, elles ont quand même ramené...
Elles sont indépendantes ?
Elles sont totalement indépendantes, elles font ça vraiment disponible gratuitement sur YouTube, mais la réalisation est ultra léchée, elles ont du bon matos et elles ont une super équipe qui les soutient dans ce projet, donc vraiment, c'est très très inspirant de voir ça. Le premier épisode qui est sorti il y a la semaine dernière, il y a Virginie Éonian dedans qui est une entrepreneuse, Pabst Touré qui est un photographe et Margie... Tu connais, ouais, c'est un mec assez connu.
Et Margie aussi, je connais.
Bon, c'est dans la prochaine émission, donc.
Ils ont vraiment eu des gens assez connus. Margie Van Doren, donc je disais, qui est styliste, c'est ça ?
Ouais.
Et donc voilà, oui, petit spoiler, j'ai eu le plaisir d'être invité à l'une de leurs émissions, du coup, qui n'est pas encore sortie, aux côtés de Christian.
T'as parlé de ta routine cheveux ?
Non, absolument pas. Comme tu le vois, elle est inexistante. j'ai été invité avec Christian Zella, qui est le fondateur de la marque Nofi, Noir et Fier, et un certain rappeur qui s'appelle Joker.
Donc
c'était super intéressant, on a parlé de masculinité noire, on a bien mangé, on a bien bu, on a bien rigolé. C'était très cool, donnait beaucoup de force à...
Donc, en fait, c'est une reco auto-promo un peu.
c'est une reco à double tiroir, tu vois. Mais voilà, donc c'est quoi ? Ça s'appelle Cotton Club. Évidemment, vous aurez le lien dans la description de l'épisode et donnez beaucoup de force à Devani et Kadi. Voilà.
Et moi, ma recommandation cette semaine, c'est Rihanna.
C'est qui?
Mais pas celle que vous pensez, en fait. Pas la Rihanna qui chante, etc. En fait, je veux vous parler en vite fait d'écologie, parce que l'écologie, c'est un sujet dont on parle de plus en plus, protéger l'environnement, le changement climatique, etc. Sauf que les gens qui en parlent sont souvent des blancs, et on a le sentiment que c'est pas des sujets pour nous. Et il y a deux choses que j'ai vues ces derniers jours et qui m'ont interpellé, qui m'ont intéressé. La première, c'est, vous avez dû entendre parler du Green New Deal, mm-hmm. dont on parle pas mal aux États-Unis.
Alexandria
Ocasio-Cortez, un ensemble de propositions pour complètement repenser le système de production, moins polluer, sortir des énergies fossiles, etc. En fait, la personne derrière tout ça, c'est une femme noire, une jeune femme noire de 29 ans, qui s'appelle Rihanna Gunright.
The folks who have the fewest barriers will be the ones who benefit the most, and you're just going to see a replication of the issues that we have now.
In other words, anyone who's historically missed out on those benefits, especially the poor and people of color, could end up even worse off. So the Green New Deal says we should rebuild the American economy in a way that allows opportunity to flow more fairly.
The Green New Deal is about, while we have this chance, why don't we think about that proactively to change it in the ways that people have been calling for it to be changed for generations at this point.
Et en fait, je vous en parle pas juste parce que le chauvinisme, il y a une noire qui est derrière tout ça.
C'est pas la vraie Rihanna, en fait.
Ça va devenir la vraie Rihanna, celle qui aura sauvé la planète, gars. En fait, Rihanna Gunright et les gens qui ont pensé le Green New Deal, ils ont pas juste dit il faut arrêter de polluer et penser le monde différemment. C'est aussi, lorsqu'on va changer notre industrie, lorsqu'on va changer notre mode de production, il faudra faire en sorte que les vieilles inégalités de l'ancien système ne se reproduisent pas. Mmh. Et donc proposer aussi d'inclure les femmes, les racisées, dans certains cas les populations autochtones, aborigènes, à cette nouvelle transition écologique. Donc ça, c'est des choses qui sont pas mal dans l'air du temps, parce que justement la majeure partie de la pollution, des émissions, viennent du nord, et c'est d'abord les gens du sud qui vont en pâtir. Donc ça, c'est une première chose. C'est en anglais, il y a une vidéo de Vox, un média que j'aime beaucoup, qu'on vous mettra en lien. Et la deuxième chose, c'est encore lié à ce sujet-là, c'est aussi sur YouTube, et c'est une conversation Mediapart. Où en fait on a, ça s'appelle tout simplement décoloniser
l'écologie.
L'écologie, exactement. Ils reçoivent deux femmes. Je suis désolé, j'ai pas noté leur nom, mais en gros, les deux sont dans l'activisme, et elles expliquent comment c'est assez difficile dans le contexte français de décoloniser les verts, l'écologie, justement, dans la mesure où, par exemple, lorsque des mères de famille d'origine maghrébine, pour des soucis aussi d'écologie, ne veulent pas avoir de viande pour leurs enfants, même des écolos, même des gens de gauche leur disent « On est en France, ici, c'est le terroir, il faut manger de la viande. » Donc il y a tout ce genre de questions qui s'en mêlent. L'écologie, c'est quelque chose qui touche à tout. Je ne suis pas un expert sur le sujet, mais si vous avez envie de vous faire une opinion, on vous mettra les liens et vous verrez, c'est hyper, hyper, hyper intéressant. Est-ce que ça vous inspire des choses, Mélanie? Toi,
moi, ça m'inspire parce que bon, je suis végétarienne, mais moi, ce qui m'avait un peu fait tiquer, c'était les véganes qui voulaient coopter la date du 22 mai pour la souffrance animale, que c'est quand même...
Ça, c'est de la blanchisserie. Antispécistes qui choisissent les dates de commémoration de l'esclavage pour dire pendant qu'on est en train de parler de souffrance, du coup, vous avez souffert de l'esclavage, nous on pense aussi que les vaches elles souffrent beaucoup, donc on pourrait faire une convergence des luttes.
Ça me rappelle une vanne de Fadili où tu dis à un moment, c'est au Jamel Comedy Club, et où tu dis comment ça se fait que la journée de la femme ce soit. Enfin, il y a la journée contre la lèpre, la journée contre le sida, et la journée de la femme, on est quoi? On est des maladies?
Moi je suis pas trop. Le concept de journée, je suis pas trop bon.
Surtout que ça veut dire que les 364 autres jours, c'est la journée des mecs.
Ben voilà, c'est
un peu malaisant, quoi.
Les journées.
Donc, c'est quoi la conclusion? Les journées. C'est la fin de cette émission. Je pense que là aussi, on est pas loin sur un record de durée d'épisode. C'était le chip. On revient dans 15 jours.
C'est bientôt les vacances.
En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Instagram @lechippodcast. Fadili, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi?
Alors moi, ma recommandation...
Oui.
Siffler. Non, moi, sur les réseaux, Fadili Camara, Fadily Camara, Camara.
.com. Non, j'ai
En tout cas, merci, ça a été un plaisir de te recevoir.
Merci, c'est trop cool.
On a passé un vraiment cool moment. On te souhaite plein de réussite pour tout ce qui arrive en 2019, 2020 et puis là.
On viendra crier à ton prochain spectacle.
Exactement. En tout cas, nous, on vous dit donc à dans deux semaines. Vous pouvez, vous devriez. On aimerait que vous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcast. Le chip, partagez-le avec vos amis. On est sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, Napster, whatever. whatever. Voilà.
Lime.
Donc, tout ça. Bisous, bisous, les amis.
Bisous.
Cette
bisous.
Émission a été réalisée par Solène Moulin.
The only one.
La vraie, la seule. Et à dans deux semaines.
Bisous.